Merci Tiffaine, bon week-end. Comme écriture et inversement, de l'herméneutique du lancer de tarte, aujourd'hui traduction intégrale des journaux de Kafka et non-sens universel avec Robert Kahn et Pierre Sange.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Robert Kahn, Pierre Sange, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
À tous les deux, lancer de tarte et journal de Kafka, je vous concède volontiers que ça ne va pas de soi. Quoique Kafka aimait ce genre de cinéma, hein, la tarte à la crème, ce parfait objet graphique, hein, ce projectile, ce véhicule, cette pâtisserie, donne lieu, Pierre Sange, à un drôle d'objet entre essai et roman ou fiction en forme d'essai. Ça s'appelle « Projectile au sens propre », ça paraît aux éditions verticales, et prend au pied de la lettre une petite phrase de Stan Laurel, hein, le Stan de Laurel et Hardy, qui disait, en évoquant la fameuse et colossale bataille de tarte à la crème qui clôt le film « La bataille du siècle » en 1927, qui dit ceci « On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens ». Hypothèse acceptée donc avec ce court texte qui cavale par fragments, par digressions, par interprétations, une sorte d'herméneutique géante de la tarte à la crème, dans laquelle on pourra croiser notamment Bouddha, Angelus Silesius et Kafka. Kafka qui n'aimait pas les antithèses, signalez-vous. Pierre Sange, une petite phrase datée de 1911, est piochée dans le journal de l'écrivain. Pragois, précisément. Est-ce qu'il faut d'ailleurs en tirer un enseignement ou est-ce que c'était une pirouette, une gourmandise d'amateurs de notes de bas de page ?
Alors c'est une citation authentique, comme toutes celles qui ont l'air fausses, mais elle reste mystérieuse comme beaucoup de, enfin on en reparlera, mais comme beaucoup d'affirmations ou de demi-affirmations de Franz Kafka qui sont d'autant plus énigmatiques qu'elles sont précises et très bien ciselées. Grammaticalement d'une clarté, enfin c'est très limpide, mais on pourra la lire jusqu'à la fin des temps sans exactement la comprendre, ou au contraire en en tirant chaque jour un enseignement différent. Voilà.
C'est ce qui rend précisément ces journaux addictifs, hein, ce qui nous amène, moyennant quelques acrobaties et une piqûre de rappel, hein, puisque vous avez signé il y a 10 ans, Pierre Sange, Études de silhouette, qui étaient des brefs récits écrits en développant, disons, une collection de phrases orphelines abandonné par Kafka en plein vol, hein, ce qui nous amène donc à la traduction intégrale et toute fraîche des journaux de Kafka aux éditions Nous, par vos bons soins, Robert Kahn, un événement que ces 12 cahiers écrits de 1910 à 1922, traduits au plus près de Kafka et peut-être au plus loin de Max Brod, hein, 12 cahiers addictifs, fragments, énoncés lapidaires, comme orphelins justement, comme je le disais à l'instant, des notes de lecture, quelques croquis aussi, des descriptions, des rêves, des insomnies, des crises, son isolement, son corps souffrant et désespérant, son impossibilité d'écrire, de ne pas écrire, et puis de nombreuses amorces de fiction à venir.
Devant la loi se tient un garde. Un homme vient de loin qui voudrait accéder à la loi. Mais le garde ne peut le laisser entrer. Peut-il espérer être admis plus tard? C'est possible, dit le garde. Par le portail ouvert, l'homme essaie de voir. Ne lui a-t-on pas appris que la loi était accessible à tous? Ne tente pas d'entrer sans ma permission, dit le garde. Je suis très puissant. Et pourtant, je ne suis que le dernier d'entre les gardes. De salle en salle, de portail en portail, chaque garde est plus puissant que le précédent. Avec la permission du garde, l'homme s'assied près du portail. Et là, il attend. Pendant des années, il attend. Petit à petit, il se sépare de tout ce qu'il possède dans l'espoir de soudoyer le garde qui, à chaque offrande, ne manque pas de lui dire « Je n'accepte que pour que tu puisses être certain d'avoir tout tenté ». À force d'épier sans cesse le garde, au cours des longues années d'attente, L'homme finit par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure. Avec l'âge, il retombe en enfance et il supplie ses puces d'intercéder auprès du garde pour qu'il le laisse entrer. Dans les ténèbres, car sa vue a baissé, il discerne une radieuse lumière filtrant à travers les portes de la loi. Et maintenant, au seuil de la mort, tout pour lui se résume en une dernière question. Il fait signe au garde. « Tu es insatiable, dit celui-ci. Que veux-tu encore ?» Et l'homme de dire, signe comme il est écrit, chacun s'efforce d'atteindre la loi. Comment se fait-il que nul autre ne se soit présenté ici au cours de toutes ces années? Et puisque l'homme entend à peine, le garde lui rugit dans l'oreille. Parce que nul autre que toi n'aurait jamais été admis. Parce que nul autre n'aurait pu franchir ce portail. Il n'était destiné qu'à toi.
Un prologue pour commencer, hein, la voix de Jean Topart doublant Orson Welles dans Le Procès, le film de 1962, entré en matière dans la langue de Kafka, choisi par vous, Robert Kahn. Pourquoi Le Procès et pourquoi ce procès-là qui s'en remet au cinéma? Qu'est-ce que vous y entendez?
La situation qui est celle de l'homme qui arrive devant les portes de la loi est une constante dans l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire que, au fond, tout texte de Kafka, tout récit contient in nucleo l'ensemble de l'œuvre. C'est ce qui est vraiment frappant. Peut-être jusqu'au moindre fragment. À chaque fois, cette opportunité, cette chance qui est donnée à l'homme, à l'individu, et puis, évidemment, l'échec final, quoi, qui est inéluctable. Et donc, réussir à construire l'œuvre que Kafka a construite en ne voulant pas la construire, est quelque chose qui est un cas unique dans l'histoire de la littérature mondiale. Et bien évidemment, ici, il faut rendre hommage à Max Brod dans son travail de sauvegarde des manuscrits. Parce que, au fond, si nous-mêmes, nous sommes bloqués devant la porte de la loi, c'est parce que Max Brod a dit ou a fait ce qu'il fallait pour que le texte soit conservé.
A transgressé. L'idée que tout puisse être contenu dans une coquille de noix, Pierre Sang, j'imagine que ça n'est pas pour vous déplaire.
Oui, ça me plaît beaucoup. Puis même ce prologue est très, très agréable à entendre, surtout avec la voix de Jean Topart que je n'avais pas reconnue. Et aussi en s'imaginant que ce prologue, dans mon souvenir, si je me souviens bien, est accompagné à l'image d'un tableau d'aiguille.
Exactement.
Voilà.
Oui,
enfin,
oui. Ouais, c'est magnifique. Ouais.
Et je me disais que ces aiguilles allaient très très bien avec cette écriture qui est très précise, avec ces puces sur le col. Voilà. Mais ça ne répond pas à votre question sur les.
Qui n'en était pas tout à fait une. Par ailleurs.
Sur les coquilles de noix, mais c'est ce qui m'avait fasciné à l'époque où je m'étais amusé une sorte de petit divertimento à poursuivre des phrases laissant suspens, c'est que certes il y a cette idée de départ et d'échec, il y a toujours des départs, mais ce que je voulais retenir c'est cet élan du départ et cette espèce de fougue quand même qui est présente chez Kafka, je trouve, dans cette envie de partir. Il y a beaucoup de récits de départ, beaucoup de véhicules, des chevaux, même un seau à charbon servi de véhicule. Il parle de chemin de fer, de locomotive. Il y a toujours cette envie de départ. Et toujours, effectivement, au bout d'un moment, un obstacle, comme dans le Talmud, cette montagne qui se dresse entre un rabbin et un autre rabbin, etc. Mais ces départs-là, c'est peut-être ça, cette idée de coquille de noix où ça contient et ça donne envie de lire, ça donne envie de vivre, ça donne envie de multiplier les livres et les lectures.
Alors en France, on l'a appelé, ces journaux, hein, on les a d'abord appelés, alors on a une version qui était Journal Intime, hein, oui. En 45, présenté et traduit par Klossowski, Journal tout court, traduit par Marthe Robert, hein, ça c'était en 54, et puis les voilà journaux, donc au pluriel, première traduction intégrale aux éditions Nous, intégrale assurée donc par vos soins, Robert Kahn qui avait fait vos armes kafkaïenne côté correspondance, hein, d'abord avec oui. Les 149 lettres à Milena, suivi des derniers cahiers, tout ça c'était déjà aux éditions Nous, avant cette Everest de plus de 800 pages. Alors puisqu'on va parler journaux, on va parler temporalité, journal de journal, peut-être un mot sur la vôtre de temporalité, Robert Kahn, comment est-ce qu'on sort de ce temps-là de traduction, de cette fréquentation assidue, longue, si longue, hein, de ce qui apparaît comme vraiment le cœur de l'écriture de Kafka.
C'est un long travail qui m'a pris quand même plus d'un an. Je voudrais d'abord dire quelque chose peut-être sur le terme d'intégrale. En effet, c'est la première intégrale pour plusieurs raisons. D'abord parce que la version, enfin, à moins que vous l'ayez en parlé plus tard, mais la version Max Brod était évidemment censurée et puis décalée dans la chronologie et se posait le problème redoutable de l'insertion des textes de fiction puisque Kafka ne fait pas de différence entre son journal et les débuts de textes fictionnels. Par exemple, dans cette édition, figure l'intégralité du premier chapitre de ce qu'on a appelé ensuite le disparu ou l'Amérique, c'est-à-dire le chauffeur. Ceci est un exemple. Il y a aussi ces textes que j'adore, pour revenir sur les locomotives. Une locomotive encalminée, c'est les souvenirs du chemin de fer de Calda, qui sont d'abord dans les cahiers, avant d'être publiés autrement. Et donc, intégrale, en ce sens aussi que Marthe Robert travaille sur une version qui ne comporte pas un certain nombre de passages et qui figure dans la version anglaise, c'est-à-dire elle retraduit de l'anglais
une partie,
voilà, des choses qui n'étaient pas dans la version allemande. Alors, cette version allemande, celle sur laquelle j'ai travaillé, elle a pour caractéristique le fait d'être, comme disent les Allemands, kritische Ausgabe, commentaire critique. C'est-à-dire que des chercheurs sont allés voir les manuscrits qui sont accessibles à Oxford et ils ont travaillé à partir de ces manuscrits. Ce qui fait qu'on a des phénomènes assez curieux. Par exemple, l'année 1911 se retrouvant avant 1910. Parce qu'il écrit en utilisant des cahiers qui peut commencer, ça lui arrive par la fin. Bon. Donc, l'ensemble et surtout, bon, évidemment, quelques passages, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a quelques passages obscènes, il faut bien le dire, dont un en particulier qui est vraiment à faire hurler tous les gens qui sont un peu engagés dans les luttes actuelles. Bon, ce n'est pas un texte d'époque, daté, qui monte un héros ottoman. Bon, ça, c'était pas dans la version Marthe Robert, qui est en général assez pudique. C'est-à-dire qu'il y a chez elle une négation presque de ce que Rabelais appelait le bas corporel, hein, et qu'on trouve chez Kafka. Voilà. Alors, donc, intégralité en ce sens-là. Voilà, mais je voudrais pas...
Voilà, effectivement, à la lecture de ces journaux-là, donc hein, des vôtres, hein, de votre traduction, effectivement, il se trouve que Kafka a une sexualité. Ce qui n'était pas forcément visible dans le journal qu'on a l'habitude de lire, en l'occurrence
oui,
celui de...
Kundera qui s'emportait contre l'image de saint que Brod voulait donner à son ami. Et il est certain que... Kafka alterne la sainteté et le démoniaque. Hein. Enfin bon, il y a des choses très obscures, évidemment.
Alors justement, à la lecture des deux, hein, de cette version intégrale, enfin ou des trois ou des quatre, hein, de cette version intégrale ou de celle qu'on a pu lire par le passé, qu'est-ce qu'on comprend au fond de ce que Max Brod a voulu faire entendre de Kafka ?
Le projet de Brod, il faut quand même se mettre à sa place dans les années 20. Kafka, à ce moment-là, est un littérateur certes connu des milieux pragois, voire au-delà, dans la sphère germanique, mais qui n'a pas une notoriété particulière. Hein. C'est-à-dire, si vous enlevez les grands romans, l'image de Kafka, ça serait de Lynn dans un manuel de littérature allemande aujourd'hui. Bon, donc Brod réussit à rendre justice, finalement, à cette écriture. Bon, alors, il y a cette discussion sur le respect ou non du testament dans lequel je ne vais pas entrer. Moi, je suis à 100% pour le non-respect du testament dans ces cas-là. C'est un peu comme si Van Gogh avait dit brûler tous mes tableaux et puis bon, voilà. Un Gauguin l'aurait fait. Bon, on serait pas très heureux d'être dans un monde sans ça. Moi, je le dis franchement.
Un monde sans Kafka,
un
non?
Un monde sans Kafka n'est pas pensable. Ne serait-ce que pour quelqu'un comme Beckett, par exemple. Bon. Et donc, Brod, il a fait cet immense effort de présenter au public. Ensuite, dans un deuxième temps, alors c'est cette version que Marthe Robert traduit. Et il me semble que les années passant, bon, il est temps, de mettre cela au jour scientifiquement, comme on le fait pour tant d'autres écrivains. Je pense ici au travail de Nathalie Mauriac sur Proust à l'ITEM. Enfin bon, la génétique textuelle n'a pas été inventée pour juste remplir les rayons de bibliothèque, quoi. Bon, il faut aussi s'en servir.
Alors voilà ce qu'écrit Kafka dans le premier cahier. Mais chaque jour au moins, une ligne doit me viser comme on vise les comètes avec le télescope. Encore en décembre 1910, il écrit « Je n'abandonnerai plus le journal, je dois me tenir fermement ici, car je ne le peux qu'ici. » Et ce journal, ces journaux que vous mettez au pluriel, se tiennent alors évidemment à un rythme irrégulier, comme tous les journaux, avec une ardeur variable, surtout sur la fin, où il est bien moins assidu. Parfois, il l'appelle de tous ses voeux, de ce journal. Parfois, il s'en veut de ne pas s'y tenir. Parfois, il l'abandonne parce que trop faible ou parce que heureux en d'autres écritures. Ça arrive au fond aussi, pardon. Au fond, qu'est-ce qu'il attend de ce journal?
Je pense qu'il y a déjà une première raison pragmatique, c'est-à-dire l'idée qui n'a pas du tout tenu, puisque effectivement il y a des années où il n'y a aucune annotation, des périodes où il n'y a aucune annotation. Kafka n'est pas du tout un polygraphe, c'est quelqu'un qui peut avoir des périodes de très longs silences et de très longues impossibilités d'écriture. Et donc, au départ, l'idée c'est quand même trouver le flux de l'écriture par ce moyen, somme toute artificiel, que sont les journaux, qui viennent en complément de la correspondance, et puis en attente, bon, de l'opus magnum, si vous voulez, du grand œuvre qui au fond, l'œuvre qu'il a le plus comblée, c'est celle qu'il a écrite. En une nuit, c'est le verdict, quoi. Voilà. Donc là, il s'est libéré totalement. C'est une espèce d'accouchement, une période d'écriture comme ça, non interrompue, qu'il a jamais pu ensuite retrouver dans sa vie. Alors, les journaux, c'est quand même le minimum, d'une part. Et puis, d'autre part, évidemment, élément d'introspection, la très belle phrase que vous avez lue sur l'observation télescopique de lui-même, c'est ça. Et c'est aussi, il y a aussi un aspect purement documentaire sur le théâtre yiddish, qui est très important dans les deux premières années, 1910, 1911. Bon, là, ça l'occupe beaucoup. Et là, on a quasiment un niveau de compte-rendu, de reportage. Enfin, bon.
Le 9 octobre 1911, si j'arrive à ma 40e année, j'épouserai probablement une vieille fille avec des dents du haut proéminentes et un peu découvertes par la lèvre supérieure. Les dents du milieu de la mâchoire supérieure de Mademoiselle Kaufmann, qui était à Paris et à Londres, se dévient les unes les autres comme des jambes que l'on croise furtivement aux genoux. Mais je n'atteindrai sûrement pas les 40 ans. La tension, par exemple, qui pèse souvent sur la moitié gauche de mon crâne s'y oppose. Elle se fait sentir comme une lèpre intérieure et me fait la même impression, si j'ignore les désagréments et veux seulement l'observer, que la vue de la coupe crânienne transversale dans les livres de classe, ou comme une dissection presque indolore d'un corps vivant, au cours de laquelle le couteau, un peu frais, prudent, s'arrêtant souvent et repartant dans l'autre sens, parfois tranquillement posé à plat, continue à découper des téguments minces comme des feuilles tout près des parties en activité du cerveau. En décembre 1910, donc un peu plus loin, un peu après 1911, ma force ne suffit plus à former une seule phrase. Oui, s'il s'agissait de mots, s'il suffisait de placer un mot et que l'on puisse se détourner avec toute la bonne conscience d'avoir complètement rempli ce mot de soi-même. Ou alors des toutes petites phrases, comme « Pendant un instant, je me suis senti pris dans un blindage ». Ou plus loin, encore une petite phrase suspendue, comme sont éloignés de moi, par exemple, les muscles des bras. Ou encore, ce soir, j'ai de nouveau été empli d'un talent anxieusement retenu.
J'avais noté cette phrase mais
dans la traduction de Marthe Robert, Pierre voilà, Sange. Oui.
C'est ça qui frappe à la lecture et qui doit rendre la traduction très difficile, en tout cas pour ce journal, c'est cette précision. On a entendu là les précisions dans les termes, les téguments, mais aussi dans les mouvements, et y compris dans les comparaisons. On dit souvent que Kafka n'aimait pas beaucoup les métaphores, mais en tout cas, Lia n'hésite pas à aller dans des comparaisons, mais qui sont quand même très tenues, qui rajoutent au lieu de diluer l'impression dans quelque chose de flou ou de je sais pas, de symbolique ou de poétique au sens d'un relâchement scientifique. C'est là pour être encore plus précis et pour creuser encore plus la question, pour préciser, gauchir un petit peu ce qui a été dit avant pour le et ça doit être terrible pour le traducteur de rendre cette précision-là.
Pas réellement. Non. En fait, il suffit de prendre le texte et de s'astreindre à ce que je fais depuis maintenant très longtemps, c'est-à-dire je m'inscris dans une pratique de traduction qui a été celle de Benjamin et de Berman, surtout Berman d'ailleurs plus que Benjamin, parce que et qui est précision, littéralité, et surtout le grand principe que Berman met bien en évidence et sur lequel il faudrait constamment revenir, c'est-à-dire que le livre ne doit pas pouvoir passer pour ayant été écrit directement en français, hein, ce qui est quand même la vulgate des traductions, le gros des traductions, des éditeurs, etc. Non, Kafka n'a pas écrit en français, voilà. Et donc j'aime bien que ce texte, tel que je le conçois, enfin tel que je retranscris, soit émaillé de preuves de la présence de l'étranger, quoi, tout simplement.
Alors, cette présence-là, d'ailleurs, même son allemand porte ce petit écart. On écoute.
Es ist ein eigentümlicher Apparat, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten Apparat. Der Reisende schien nur aus Höflichkeit der Einladung des Kommandanten gefolgt zu sein, der ihn aufgefordert hatte, der Exekution eines Soldaten beizuwohnen, der wegen Ungehorsam und Beleidigung des Vorgesetzten verurteilt worden war.
Alors c'est le tout début de l'attaque de la colonie pénitentiaire, hein, de la nouvelle publiée en 19 et écrite en 14, qui est lue ici par Hans-Jürg Grösse. Et ce qu'on entend aussi ici, c'est une langue allemande, une langue sèche, précise, rythmée, dites-vous. Cette langue allemande dont Kafka disait lui-même qu'elle lui était d'une certaine façon prêtée, qui n'est pas donc l'allemand des Allemands, qui est un allemand restreint d'une certaine façon, hein, qui est assez sec. Comment le traducteur de l'allemand que vous êtes, hein, au-delà de la langue de Kafka à proprement parler, hein, mais comment est-ce que vous décririez son outil langue, c'est-à-dire son allemand précisément, Robert Kahn?
Alors, sur son allemand, je suis d'accord avec Jean-Pierre Lefebvre qui dit que il faut traduire tous les petits mots, les doch, les aber, etc., qui sont fréquents en allemand, qui font un peu lourd en français, mais qui structurent la phrase de Kafka, qui sont très très présents. Sinon, de manière plus générale, je suis de plus en plus convaincu, comme beaucoup de chercheurs actuellement, qu'il n'y a pas de hiatus entre l'activité professionnelle de Kafka, qui, rappelons-le, était un cadre supérieur occupant un poste très important dans l'office.
Oui, qui n'était pas un petit bureaucrate.
Du tout. C'était un cadre, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un cadre supérieur, qui a terminé sa carrière comme fondé de pouvoir, enfin qui avait des responsabilités très importantes. Et donc, il a rédigé, parfois signé, la plupart du temps non signé, un grand nombre de textes professionnels sur, en particulier, la protection des travailleurs qui travaillent dans les mines, dans les carrières, dans les usines, etc. Bon, et je pense que c'est la même langue. C'est-à-dire qu'il y a une contamination des deux. La colonie pénitentiaire, qu'est-ce que c'est sinon un accident du travail, pourrait-on dire? À l'inverse, il était très apprécié de ses chefs parce qu'il avait cette capacité rédactionnelle qui était évidemment peu courante à l'époque. Et donc, il était chargé de rédiger les rapports, les choses comme ça. Bon, et ce qui lui a permis de faire une carrière très importante. Il a été maintenu, Kafka. Alors, bon, ça n'apparaît que très très peu dans les journaux, beaucoup plus évidemment dans les lettres à Milena. Mais Kafka savait très bien le tchèque. Et c'est ce qui lui a valu de garder son poste après 1919, lorsque la République tchèque a été installée.
Sur la langue à proprement parler, alors en fait ma question portait aussi sur la qualité particulière de cet allemand-là, parlé à cet endroit-là, par cette société-là.
Bon, il faut commencer par rappeler que c'est l'autrichien, c'est pas l'allemand. ce qui est déjà, alors il y a certaines particularités de l'autrichien, il y a certains termes qui sont différents, certaines façons de faire. Bon, pour le reste, c'est un allemand, il faut le dire, standard. En fait, c'est, si vous voulez, de ce point de vue-là, le traducteur a la tâche beaucoup plus aisée que celui qui va s'attaquer ou celle qui va s'attaquer à Thomas Mann ou même à Hofmannsthal ou Schnitzler ou bon, d'autres. Enfin, la langue elle-même ne pose pas de difficultés. Ni de compréhension, ni de retranscription. Enfin,
on est d'une telle clarté.
Voilà.
Oui, mais enfin, vous êtes modeste, je suppose. Mais ça doit être quand même un gros travail. Personne. Surtout que moi, l'aspect de sécheresse me gêne un peu. Je trouve ça précis, mais pas sec au sens où il y aurait une absence de générosité ou une pauvreté de l'écrit. Ou on sent que dans cet intérêt pour les détails. On a entendu tout à l'heure cette précision dans les descriptions des dents et une métaphore, enfin une comparaison avec des jambes qui se croisent. Ça enlève cette sécheresse qui est la sécheresse de l'outil, mais avec cet outil, on fait quelque chose de presque humide. Enfin, je dis humide parce que dans un passage du journal aussi, il évoque des spectateurs au théâtre qui s'essuient les yeux et il évoque le bout des doigts humides.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que cet instrument, au fond, on pourrait utiliser l'image, bon, même si effectivement on les aimait pas trop, mais c'est un scalpel.
Alors voici ce qu'il écrit encore. Un avantage de la tenue d'un journal consiste en ceci, que l'on devient conscient avec une clarté réconfortante des transformations que l'on subit continuellement, que l'on croit d'ailleurs naturel en général, que l'on pressent et que l'on avoue, mais que l'on nie toujours inconsciemment dès qu'il s'agit de retirer de l'espoir ou de la tranquillité d'un tel aveu. Dans le journal, on trouve des preuves de ce que, même dans des circonstances qui paraissent aujourd'hui insupportables, on a vécu, on a regardé autour de soi et transcrit des observations, que donc cette main droite a bougé comme aujourd'hui, alors que nous sommes, certes, grâce à la possibilité de la vision de l'état d'antan, plus malin, et que c'est la raison qui nous pousse à reconnaître le courage de notre vieil acharnement conservé, malgré toute l'ignorance. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, Robert Kahn, sur le fait que ce journal s'amenuise hein, dans les dernières années, sur tous les plans d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il s'absente plus régulièrement, et en même temps, on a l'impression aussi que ces interventions se font plus courtes, plus lapidaires, plus essorées, pour pas dire sèches, ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment est-ce que vous comprendriez cette disparition, cette suspension progressive du journal?
Si on fait un relevé de nombre de pages, on a effectivement des années où il y a 50, 60 pages, et puis à partir des années 20, là, c'est quelques pages, quelques notations, des tentatives de reprise. Bon, alors, c'est le biographique, évidemment, la maladie. Aussi, sans doute, la rencontre avec Milena, puisqu'il lui donne, il lui confie le manuscrit des journaux, en espérant et en redoutant qu'elle en tire des armes contre lui, hein, dit-il. Donc, évidemment, le plus simple, c'est de ne plus écrire de journal. Si après, il doit les lui donner, bon. Alors, bon, il y a cette explication-là, mais sinon, l'idée aussi, c'est que, bon, bah, c'est le château, hein, ce sont les années du château qui est quand même, probablement à ses yeux, la grande œuvre. La grande œuvre, bon, inachevée, comme tous les romans, mais ça l'a certainement beaucoup réquisitionné. Et puis, c'est un homme, bon, qui se sait très, très, très gravement malade, et donc le journal n'apparaît plus comme une priorité, enfin, clairement, enfin, il me semble. Hein.
Mais... Et son corps apparaît d'ailleurs moins malade lorsqu'il l'est qu'avant de l'être, dans les journaux en tout cas, parce que... Il en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les premières années.
Bien sûr.
Énormément. De son crâne, ses tempes, ses muscles, son estomac, ses migraines.
Ah oui, c'est bon. Je pense qu'avant d'être très gravement malade, il était hypochondriaque. Jusque-là.
Alors, c'est pas que Robert Kahn que je tienne, ou Pierre Sange d'ailleurs, hein, qu'on tienne l'un et l'autre absolument à ce que votre travail ait été particulièrement acrobatique ou difficile ou pénible, mais vous avez gardé, à la différence, hein, on l'a bien compris, de Marthe Robert, alors encore plus de Vialat, qu'on n'a même pas évoqué, hein, par ailleurs. Mais vous avez gardé les répétitions, les relâchements syntaxiques, la ponctuation parfois, alors soit aléatoire, soit absente. Est-ce que ça demande quelque chose au traducteur, ou en tout cas, ce que vous pourriez préciser, ce que ça a pu impliquer pour traduire?
J'ai pris l'édition allemande, j'ai reconstitué leur ponctuation qui, normalement, est identique à celle du manuscrit. Autant que j'en puisse juger sur les deux cahiers qui ont été publiés en fac-similé, c'est le cas. Par ailleurs, je suis bien conscient du décalage qu'il y a entre « on mettra un point à tel endroit dans une phrase allemande » et ne pas le mettre en français, puisque, bon, c'est évidemment, la structure des langues n'est pas la même, donc il y a un risque. Et c'est là qu'on retombe sur les fameux problèmes de loss in translation. Bon, mais ce risque vaut le coup d'être pris, quoi, parce que sinon on ne touche plus à la première traduction qui, comme dit Berman, en général, doit être prise. Enfin, il en faut au moins deux, d'après Berman, voire un peu plus.
Voire une par génération pour les grands textes.
Une par génération pour les grands textes, que je crois assez profondément, puisque l'horizon culturel change complètement. Bon, encore une fois, Marthe Robert, lorsqu'elle traduit Beckett, vient juste de se voir accepter en attendant Godot.
Est-ce qu'on n'a pas parlé d'ailleurs de ce qui pouvait nouer Kafka et le cinéma? Parce que je crois que vous avez un avis l'un et l'autre, Robert Kahn et Pierre Sange. Enfin, pas un avis, mais des connaissances en tout cas, sur ce qui liait Kafka au cinéma.
Oui, alors mes connaissances tiennent essentiellement à la Bible sur cette question, qui est le livre de Hans Sichler, Kafka va au cinéma. Sichler, qui était un acteur de Wenders, traducteur de Derrida, et qui a fait un travail extrêmement minutieux d'enquête où il a recensé tous les films que Kafka a vus, dont il parle. C'était un passionné du slapstick et je pense Laurel et Hardy, il me semble. Et il a vu des navets incroyables.
Des mélos. Mais, voilà. Vous allez pleurer au cinéma.
Enfin, voilà, oui, ouais, exactement.
Vous aviez repéré quelque chose.
Oui, j'avais retrouvé
journal,
cette phrase. Alors, dans l'ancienne traduction, je m'en excuse. Alors, c'est en juillet 1913, il dit « J'ai joué une scène de film comique à mes sœurs dans la salle de bain ». Voilà, ouais. C'est magnifique.
Alors, ce qu'on entendait tout à l'heure, hein, c'était évidemment pour en venir à vous, Pierre Sange, hein, votre essai romanesque, fiction-essai, je ne sais pas, cet objet, donc, ce texte, projectile au sens propre, qui paraît chez Vertical. Et c'était quelques notes qui accompagnent La bataille du siècle, hein, ce film réalisé en 1927 par Clyde Bruckman avec Stan Laurel et Oliver Hardy, un film de 19 minutes qui converge tout entier vers cette bataille géante, hein, fameuse culte de tarte à la crème en pleine rue. Et vous écrivez ceci, Pierre Sange, page 12. On reviendra plus tard sur ces mesures extravagantes. On reviendra aussi sur la manière de bien fouetter la crème. D'ici là, il faut négliger l'abondance pour s'en tenir aux détails singuliers et s'intéresser de plus près à une phrase, une seule, dite un jour à un représentant de la presse par Stan Laurel, le comédien, Stan Laurel, le réalisateur, celui de Laurel et Hardy, à propos de Bataille de Tarte. Il faisait allusion à la Bataille du siècle, tournée en 1927, œuvre où la crème débordait. Il parlait en parfaite connaissance de cause, testamentaire et saint d'esprit. On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens. Ainsi, nous voilà prévenus, il y a eu les milliers de tartes, les quintaux de farine, les litres de crème, des bras de galériens pour la fouetter dans des manufactures à l'aube, des dollars par milliers aussi, des kilomètres de pellicules, de ces batailles comme des gesticulations de fêtes du printemps en hiver, des transes collectives, des piétinements de profanateurs et d'iconoclastes, le plaisir très grossier de voir un monsieur en costume enrobé par la crème depuis le bout de sa cravate jusqu'à la pointe de ses cheveux. Et le rire là-devant était un rire fondamental, sans Freud et sans Bergson, sans trait d'esprit. C'est à peine si on pensait à Aristophane. On n'en avait pas le temps, une tarte suivie d'une autre tarte et l'étoile de la crème sur des visages ahuris nous aurait fait ravaler nos références. La honte se mêlait à la joie ronde et pleine. On voyait dans ces batailles de pâtisserie un antidote à Schopenhauer ou à la grammaire de Port-Royal. Eh bien non, on avait tort, tout cela avait une signification. Du moins chaque tarte, l'une après l'autre, m'entendez-vous ? Chacune d'entre elles avait un sens et s'écrasait avec son sens sur des visages de comédiens. Ce qui plante le décor. Alors, avant de s'étendre sur cette hypothèse prise au pied de la lettre, qui va en libérer bien d'autres, et sans vouloir faire de vous un historien du cinéma, Pierre Sange, quoique le livre soit évidemment fort documenté, un mot peut-être sur cette violence pâtissière on va l'appeler comme ça. Hein. Si chaque tarte a un sens, en tout cas pour ce film-là, et vous en listez un nombre convaincant, quel serait le sens de la tarte ?
Oui, complètement. Ben, c'est un génie et c'est une signification inépuisable et inépuisée. On pourra encore s'interroger très longtemps sur la question non seulement de ces batailles, mais aussi de l'objet lui-même. Pourquoi c'est une tarte et pourquoi c'est une tarte à la crème ? Comme si la tarte à la crème, c'était une sorte de pâtisserie au carré, une sorte de pâtisserie pâtissière qui serait redondante, qui serait voilà, qui aurait peut-être une, soit c'est une méta-tarte, soit c'est une tarte repliée sur elle-même, qui se commente elle-même, etc. Alors pour ce qui est du déchaînement, voilà, c'est un petit peu le sens du film et le sens de cette mise en scène qui justifie un petit peu les choses, mais qui ne s'interroge pas non plus outre mesure sur les origines, mais voilà, qui donne quand même au spectateur un minimum de prétexte et de raison d'être. Mais une fois que la scène de bataille est justifiée par un incident somme toute mineur, très facile à trouver pour un scénariste, là on est dans le sorte de déchaînement pur qui devient graphique et qui devient une sorte de grand plaisir. Comme on prendrait plaisir à voir une danse, une chorégraphie, une gymnastique, ou les personnes, ou presque un tableau abstrait aussi. Hein. On est entre la toile de Bruegel remplie de personnages et une toile abstraite. Ah, ou non, on n'a plus que des taches et des silhouettes et des formes, des contrastes de noir et blanc.
Voilà. On a même une inversion presque du noir et blanc, parce qu'on part au départ où c'est la tarte à la crème qui fait tache, et puis voilà. Après, à la fin, la tarte à la crème remplit l'écran, et c'est
voilà.
Le propre.
C'est l'intact qui devient suspect, et s'il y a une personne intacte, c'est sans doute le coupable ou quelqu'un qui est en dehors du film. Et il y a certainement l'idée d'une violence, mais c'est une violence très douce, très radoucie par la mise en scène, mais par les gestes et par l'objet lui-même. Alors on se situe un petit peu entre les deux. C'est quand même assez humiliant, c'est quand même assez violent. Il y a quand même des gifles de tarte qui sont quand même frappantes, mais voilà, encore une fois, avec le découpage, avec la réaction des comédiens, une dramaturgie outrancière est quand même évitée.
Vous dites, hein, c'est une énergie ni malveillante ni bienveillante, en équilibre sur la crête d'une frénésie marquant précisément la frontière entre une bonté de jardin d'enfant et une méchanceté, elle aussi gratuite, infondée.
Je pense que c'est une partie du, enfin, ça explique une partie du succès de l'objet même de la tarte à la crème, parce qu'il y a eu d'autres batailles avec d'autres objets dont on se souvient moins. Alors, paraît-il, les batailles de tarte à la crème sont pas si nombreuses que ça dans le cinéma, mais c'est ce qui marque l'imaginaire et ce qui a été repris dernièrement par certains activistes, entartistes et autres attentats pâtissiers contemporains. Voilà, on a repris cet objet peut-être parce que en lui-même, il se tient sur cette crête-là d'une sorte de bienveillance, d'humour et puis de vraies gifles et de vraies sanctions.
Alors à propos de ces fichues significations, signifiant, signifié, significateur, vous avez souhaité, Pierre Sange, faire entendre une voix et une hypothèse. La voix, c'est celle de Hitchcock en 62, s'entretenant avec François Truffaut. Il y définit le fameux MacGuffin, ce petit prétexte au développement d'un scénario. Mais vous allez nous expliquer tout ça. On l'écoute.
The word MacGuffin.
Le terme MacGuffin,
it could be a Scottish name,
ça pourrait être un nom écossais.
M-A-C,
M-A-C,
capital G-U-F-F-E-N, MacGuffin, comes from a conversation between two men,
entre deux hommes,
in a railway train,
dans un train de, un train.
One says to the other,
l'un dit à l'autre,
what is that package you have above your head on
qu'est-ce
the luggage
rack? Qu'est-ce que
c'est
que ce paquet que vous avez sur votre tête sur le machin des valises?
He said, oh, that's a MacGuffin.
Il dit, oh, ça c'est un MacGuffin.
So the other man said, well, what is a MacGuffin?
Qu'est-ce que c'est qu'un MacGuffin?
He said, well, it's an apparatus.
Eh bien, c'est un appareil.
For trapping lions.
Pour attraper des lions.
In the Adirondack Mountains of New York.
Dans les montagnes des Adirondacks de New York.
Or we'll say the low mountains in England, the Apennines, anywhere you like.
Enfin, n'importe où, les basses montagnes de l'Angleterre.
But the other man says, but there are no lions in the Adirondacks
dis,
in New York.
Mais il n'y a pas de lions dans les Adirondacks de New York.
The man says, well, then that's no MacGuffin.
Alors il dit, dans ce cas-là, c'est pas un MacGuffin.
Alors, petite précision, Pierre Sange. Alors, qu'est-ce que c'est que le MacGuffin, au fond? Alors, bon, c'est assez connu pour ceux qui s'intéressent à Hitchcock, notamment. Hein. C'est cette chose, cet objet, ce secret, cet objet de convoitise qui permet éventuellement le scénario, mais c'est aussi un leurre, d'une certaine façon. Qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est l'objet après lequel court tout le monde dans les films d'espionnage, le microfilm, le plan... Le faucon maltais, la liste des amis et des ennemis de Carlotta, comme dans Les cadavres ne portent pas de costard, et qui n'a aucun intérêt en soi, sauf le fait de faire courir tout le monde, et qui n'a d'intérêt que son intérêt, qui n'a d'intérêt que le désir que tout le monde finalement se rassemble pour porter arbitrairement sur cette chose-là. Et un film peut tenir entièrement sur un petit objet sans intérêt. Alors peut-être qu'un livre aussi, je ne sais pas.
Oui, alors évidemment, ça sera la question, parce que je m'adresse aussi à quelqu'un qui a imaginé avec Nicolas de Crécy hein, la biographie fictive donc, d'un certain Gordon MacGuffin, c'était
exactement.
quelques années maintenant. Hein, dont vous aviez fait une sorte de loser indispensable et oublié de l'industrie hollywoodienne. Qu'est-ce que ce serait alors que le MacGuffin, hein, par exemple, si on parlait de littérature et de vous?
Alors, ça serait peut-être vous parliez tout à l'heure de déployer des choses et voilà peut-être de prendre des phrases ou des déclarations ou des objets au sérieux et d'essayer d'en développer par l'interprétation toutes les possibilités. Voilà, ça serait peut-être l'interprétation de quelque chose qui n'est pas forcément interprétable, la signification de quelque chose qui n'en aurait pas forcément. Alors, il y a quelque chose. Pour faire un lien très lointain avec le Talmud dont on parlait tout à l'heure, mais il y a ce mot de la Kabbale qui est le pilpoul, qui est la surinterprétation, pas jusqu'au délire, mais voilà, jusqu'aux énormes subtilités d'écriture de la moindre chose, de la moindre phrase, du moindre mot, de la grammaire de telle ou telle phrase ou de tel objet. C'est un petit peu ça, appliqué avec moins de sérieux et peut-être moins d'acharnement à des objets comme la tarte à la crème ou comme le MacGuffin ou d'autres.
Vous le faites un petit peu d'ailleurs avec Spinoza.
Oui, complètement. C'est pour ça qu'ils apparaissent.
À la fin du texte. Oui. Dans un précédent roman qui s'appelait Séquel, avait lieu l'improbable rencontre entre le capitaine Akav et le librettiste de Mozart, d'Aponte. Cette fois, c'est un dialogue inespéré hein, entre Stan Laurel et le mystique allemand Silésius, mystiquement du XVIIe siècle, c'est si ça. Je ne dis pas de bêtises, qui a lieu. Qu'est-ce qui se joue, au fond, dans ce dialogue entre, comme vous dites, le chérubin de Dieu et l'employé de la Universale?
Oui, ils seraient opposés de façon arbitraire et bon, déjà anachronique, mais arbitraire comme dans tout bon film ou tout bon mélodrame, il y a le bon et le méchant. Donc là, j'oppose arbitrairement, alors que les réalités sont sans doute plus subtiles, Saint Laurel qui revendique une signification là où apparemment il n'y en avait pas, et Angelus Silésius, avec sa fameuse phrase « La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit », incite plutôt à une sorte de béatitude ou d'accès immédiat aux choses, à la beauté des choses. Je la prends là aussi au pied de la lettre et je la détourne de son sens en essayant d'y trouver ce qu'on trouve d'ailleurs parfois chez les mystiques, mais parfois aussi chez des écrivains. C'est un refus de la raison, enfin une méfiance envers la raison, envers la signification, envers l'interprétation. Qui peut aller parfois jusqu'à un certain anti-intellectualisme, comme si la raison, la science, l'interprétation et la philosophie pouvaient être l'ennemi de la poésie, de l'évocation, du plaisir littéraire. Alors que on peut faire de Manganelli l'a fait, Kafka le fait, de la littérature très 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 littéraire, si tant est que ça a un sens, mais sous une forme d'hypothèse déployée. Et que finalement, il y a...
Ce qui est précisément ce que vous faites.
J'essaye, mais les scientifiques aussi ont fait ça. Les vulgarisateurs ont raconté des histoires pour nous faire comprendre des choses. Hein. Les jumeaux de Langevin, Albert Einstein qui s'imaginait chevaucher un photon de lumière. Voilà, on a encore sur des... Alors, c'est pas le saut à charbon de Franz Kafka, mais il y a un lien entre les deux, je pense.
Vous écrivez, donc toujours dans Projectile au sens propre, hein, vous écrivez « Alors, secouer ces mystiques et leur dire à travers un mégaphone, et le mégaphone enfoncé dans le crâne, que leurs biens et leurs bons descendus du ciel ne sont pas Aune Varum, bien au contraire, Mit Varum, avec des milliers de Varum, et non seulement avec, mais portés par et traversés d'eux, ils sont eux-mêmes, au lieu de l'étoffe des rêves, le pourquoi sans cesse et des tentatives de réponse à porter en tremblant, mais ça ne servira à rien, il y aura toujours un mystique à côté d'un mystique pour nous conseiller de ne jamais vouloir comprendre l'univers. La véritable noblesse de l'adulte étant de se priver du faux désir de comprendre, mieux vaut atteindre la résignation de Job, condamné par le bon Dieu aux délices de l'incompréhension, au nom d'un argument limpide. Mal comprendre serait encore pire. »
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Pour en revenir, alors on était passé de Stan Laurel hein, donc à Silésius. Alors il y a beaucoup de digressions, beaucoup d'associations d'idées. C'est un peu comme ça que progresse le texte, Pierre Sange, aussi avec la note de bas de page, la variation comme rythme, hein, comme, voire comme écriture. Qu'est-ce que ça dit, non seulement du processus d'écriture chez vous, mais aussi de ses enjeux? Ça veut dire que c'est d'abord écrire en lecteur, ou écrire en commentateur, puisqu'on est au rayon herméneutique et exégèse?
Ah, ben les deux me plaisent beaucoup, écrire en lecteur et en commentateur par conséquence. Oui, écrire comme si un texte était préexistant et qu'il ne nous restait plus qu'à... Enfin, le nœud restrictif, enfin, le nœud pas restrictif n'a pas lieu d'être. Hein. C'est un plaisir supplémentaire, ce n'est pas une réduction, mais il nous reste à commenter des choses. Alors ça peut être le commentaire par la traduction, le commentaire par le commentaire, mais ça peut être aussi une façon déguisée d'écrire, de tourner autour d'un sujet et finalement sous prétexte ou en prenant l'alibi du commentaire, d'écrire directement un texte. C'est toujours difficile de faire le narrateur, voilà, de narrer une histoire. Donc l'une des ruses possibles, MacGuffin peut-être possible, c'est de l'imaginer déjà écrite et puis de n'en garder que les commentaires, parce que c'est ce qui nous intéresse dans une phrase, dans un texte. Ce n'est pas de savoir si un tel ouvre une porte, mais c'est de savoir comment est cet un tel et comment grince cette porte. C'est ça qui me semble intéressant. C'est ce qui se passe dans les parenthèses, dans les adjectifs, même si les adjectifs n'ont pas toujours une bonne cote, mais voilà, dans ce qu'on peut en dire, et pas forcément dans ce qu'on dit, mais dans la manière et dans des idées développées comme ça, incidemment.
Ça suppose, Pierre Sange, d'écrire avec sa bibliothèque ou après sa bibliothèque, ou je sais pas comment on pourrait dire ça. On croise par exemple dans ce texte, Angelus Silesius, on l'a vu. Alors là, dans les dialogues, rythme un peu la progression du texte, mais on va croiser aussi Saint-Augustin, Léonard de Vinci, Rudolf Valentino, Charles Quint, Bouddha, Nicolas Fouquet, l'inventeur de la crème chantilly, merci pour cette information, Jung, mais on croise aussi des auteurs, beaucoup, Pessoa, Rabelais, Walzer, alors quelques philosophes quand même, Schopenhauer, Bergson, Spinoza, Rousseau, un peu en oblique, un peu par hasard, Kafka forcément. On aurait pu aussi peut-être croiser Carlo Emilio Gadda, que vous souhaitiez faire entendre, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, ou encore cette autre voix-là que vous avez choisie.
J'avais toujours un rêve idéal quand j'étais... Mios commence en puberté, dans mon adolescence, que le matin à l'université est prélégué sur la philosophie scolastique et sur toutes les philosophies, et le soir dans un cabaret être un conférencier, raconter des blagues, des histoirettes piquantes. Mais je crois que dans mon œuvre, et peut-être, si vous avez un flair, pas seulement dans mes œuvres, mais dans mes manières, vous flairez cette combinaison de scolastique et de comédien, le prophète et le conférencier. Je suis cruel satiriste au point de vue de la morale. Je suis un bourreau, mais dans les autres provinces de l'esprit, je ne suis pas bourreau, je suis...
Bienveillant.
Pas trop bienveillant. Veillant.
Pas bienveillant,
pas bienveillant,
mais veillant.
Alors, c'était la voix de l'écrivain hongrois Miklós Tenkuti au micro d'André Velter en octobre 87. Sur France Culture, vous perdez rarement une occasion de l'évoquer. Pierre Sange, non, c'est dire son nom, mais c'est bien parce que c'est vrai qu'il est quand même tout à fait à la marge, même si c'est un écrivain très important. Il est assez mal connu en France. Alors, je ne sais pas, il n'est peut-être pas suffisamment traduit. J'en sais rien, je ne sais pas quel était l'état de la traduction en ce qui
français,
concerne
c'est
son
en
œuvre.
En anglais aussi, voilà, petit à petit.
Je rappelle qu'il aurait laissé un journal d'environ 100 000 pages.
Oui, au moins. Entre 100 et 150 000, enfin, selon... Alors, c'est intéressant que vous disiez parler de marge, parce que on évoquait tout à l'heure le commentaire. Il a fait un très beau livre qui s'appelle En marge de Casanova, qui est un commentaire de Casanova. Et en réservant cet extrait, j'avais oublié à quel point quand il parle de Je suis le théologien et le comédien, en fait, il rassemble Angelus Silesius et Stan Laurel, mais ça a l'air voulu, mais c'est presque du hasard.
Qu'est-ce que vous lui devez à cet homme-là ?
On l'entend un petit peu dans cet extrait, cette façon, je ne dis pas désinvolte, lui, il utilise beaucoup le mot frivole, en tout cas en français, ça donne le mot frivole, d'aborder la littérature, l'écriture, voilà, que c'est un. On est à la fois entre la théologie et le cabaret, donc c'est quelque chose de sérieux, mais c'est aussi de la rigolade. Et cette façon, voilà, on cherche toujours, comme Gadda, comme Kafka, je prends des grands modèles, des ruses pour ne pas écrire. Et ça, c'est une des ruses possibles, c'est-à-dire, voilà, après tout, c'est pas si grave, on peut être là aussi pour s'amuser, même si c'est un jeu sérieux, voilà.
Et pour ce qui est de la bienveillance, la vôtre, j'entends, Pierre
Sange. Peut-être qu'écrire un livre, c'est obligé et avec plaisir de respecter le lecteur, donc d'être dans la générosité, c'est ce que disait, pour en revenir à Orson Welles, une phrase qui pourrait être une devise, il disait la grandeur d'un artiste, pensons à Franz Kafka, ne se mesure pas à l'effet qu'il produit sur nous, mais à la grandeur des dons que nous recevons de lui. C'est pour ça que je disais que c'est pas sec. Il y a beaucoup de dons chez Franz Kafka, et ce qui fait que c'est un grand artiste. Et je pense que n'importe qui, traducteur, écrivain, auteur de n'importe quoi, au moment d'écrire, doit penser à donner quelque chose et non pas à faire un effet.
Pierre Sange, Robert Kahn, c'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi, et je vous laisse avant de partir avec Stan Laurel et Oliver Hardy. Et si on tend bien l'oreille, le rire de Suzy Delair au micro de Georges Join en 47 à Paris. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Nous avons demandé à Laurel et Hardy de bien vouloir finir en disant bonjour à nos auditeurs parisiens, aux auditeurs français.
Comment?
C'est good day to our French listeners.
Au revoir, ladies and gentlemen. Stan and I hope that you like the picture we're going to make. And our friend here will interpret. I mean, my friend Stanley.
He just told you what I was going to say. You see, I told him before that what I was going to say, and he went and told it before me. So, there's nothing more I can say. Au revoir.
Nous faut qu'on en dise plus. J'ai une question pour vous, si jamais,
oui.
Ou plus, même plusieurs.
Non,
à propos, parce qu'on a parlé à un moment donné de Walser, et puis il y a cette allusion à ce personnage dans mon livre qui s'appelle Grasnod, qui est une allusion à Snodgrass de Dickens. Il y a quand même une importance de Dickens. Est-ce qu'elle est surestimée? Parce que parfois on veut la mettre en avant, où elle est réelle, il lisait.
Elle est très réelle, il lisait beaucoup Dickens, en particulier David Copperfield. Mais avec quelques réticences quand même. Bon, il trouve qu'à certains moments, Dickens va à la ligne, qu'il étire un peu tout ça. Je crois que ce qui l'intéresse, c'est vraiment le dynamisme de l'intrigue, surtout pour ce qu'on appelle Amérique. Mais oui, c'était un grand fan de Dickens, bien sûr.
C'est intéressant ce que vous dites sur le dynamisme et puis sur le fait de tirer à la ligne, parce qu'on a l'impression chez Kafka, il y a ce désir qui est le côté dynamique de l'écriture, mais peut-être une hantise d'aller à la ligne et d'écrire trop facilement, et puis peut-être cette volonté de se mettre des obstacles, je ne sais pas.
Mais c'est au fond tout le contraire d'un auteur prolixe. C'est quelqu'un, à peu près, à chaque ligne est vraiment capitale, quoi. C'est une écriture très tendue de ce point de vue-là, qui ne laisse quasiment aucune scorie. De ce point de vue-là, je pense que votre livre l'aurait vraiment fasciné. Quoi. Surtout que la schlag, la torte, c'est quand même des éléments très forts dans l'Empire austro-hongrois. Mais bon, j'ai pas trouvé de traces de pâtisserie spécifique chez Kafka. Mais il devait en consommer forcément. Dans le cas de ses menus végétariens, ça devait tout à fait coller, quoi.
Compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Jean-Michel Bernaud, à la préparation, Thierry Beauchamp, et à la réalisation, François Connac. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin et de sa méthode scientifique.